À Bamako et à Ouagadougou, 22h à Niamey. Bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Des milliers de demandeurs d'asile africains ont été forcés de quitter Israël, selon Human Rights Watch. Le Sénégal respire, il n'y a plus de malades Ebola sur le territoire. Mais au Burkina Faso, les autorités ont préféré annuler des événements internationaux, toujours en raison du virus Ebola. Mobilisation au Mali pour la sécurité routière. Et enfin, Oxfam, qui s'inquiète des partenariats publics-privés dans l'agriculture africaine qui ne profiteraient pas assez aux citoyens. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce microphone. Au Nigeria, l'armée indique avoir infligé aujourd'hui un réveil à des combattants de Boko Haram non loin de Maïdougouri, la capitale de l'État de Borno. Abuja dit avoir envoyé des renforts pour sécuriser la ville. Le porte-parole du gouvernement Mike Omeri est formel. Les assaillants ont été repoussés et l'armée a fait des victimes de leur côté, a-t-il déclaré. Mais il n'y a eu aucune confirmation de sources indépendantes. Les islamistes de Boko Haram avaient encerclé la ville de Maïdougouri et des combats acharnés les opposaient depuis ce matin aux forces gouvernementales. Épidémie de Ebola en Afrique de l'Ouest, la directrice générale de l'OMS estime que des renforts en personnel de santé qualifiés sont nécessaires pour faire face à la situation. En attendant, le bilan continue de s'alourdir. Lola Akomatsri.
L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a tué plus de 2400 personnes sur 4784 cas, a fait savoir aujourd'hui la directrice de l'OMS, Margaret Chan. Le plus grand obstacle reste le manque de personnel qualifié, a-t-elle souligné.
Money, materials are important, but those alone.
L'argent et le matériel sont importants, mais à eux seuls ne peuvent pas arrêter la propagation de l'Ebola. Les ressources humaines sont le plus important, en particulier le besoin en médecins et infirmiers compatissants qui seront confortés les patients, a expliqué la patronne de l'OMS aujourd'hui à Genève, en se félicitant de la décision de Cuba d'envoyer 165 professionnels de la santé en Afrique de l'Ouest. Les centres de contrôle des maladies infectieuses des États-Unis ont aussi envoyé des spécialistes et l'Agence américaine pour le développement international, l'USAID, sollicite des volontaires pour l'Afrique de l'Ouest sur son site internet. Le médecin américain Rick Sacra, traité aux États-Unis, va beaucoup mieux selon sa famille. Une remarquable amélioration qui pourrait être due à deux transfusions de plasma sanguin provenant d'un de ses collègues, le docteur Kent Brantley, désormais guéri de l'infection.
Les États-Unis ont annoncé la réouverture de leur ambassade en République centrafricaine après une absence de près de 2 ans. Dans une lettre au Congrès, jeudi, le président Barack Obama a déclaré que 20 soldats américains sont arrivés pour établir un périmètre de sécurité à l'ambassade à Bangui. Cette décision intervient alors que les Nations Unies commencent une nouvelle mission de maintien de paix dans le pays. Condamnation du député Jean-Bertrand Ewanga en République démocratique du Congo, figure de l'opposition et secrétaire général de l'Union pour la Nation congolaise. Il écope d'un an de prison ferme pour outrage au chef de l'État, aux membres du gouvernement et aux membres du Parlement. Et en Afrique du Sud, Oscar Pistorius, disculpé des accusations de meurtre, a été reconnu coupable d'homicide involontaire pour avoir tué sa compagne Riva Steenkamp.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'Union européenne et les États-Unis ont mis en œuvre aujourd'hui de nouvelles sanctions contre la Russie à cause de l'intervention de Moscou en Ukraine. Ces mesures visent des fermes dans le secteur de l'énergie, dont Rosneft, la plus importante compagnie pétrolière russe. Les banques russes, dont la plus grande du pays, Sberbank, pour la première fois, ont été ciblées. Le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé l'octroi de près de 500 millions de dollars d'aide supplémentaire aux personnes touchées par la guerre civile en Syrie. Plus de 250 millions de dollars du programme seront décaissés pour aider 3 millions de réfugiés syriens qui ont fui vers les pays voisins, notamment la Jordanie, la Turquie, l'Irak, le Liban et l'Égypte. Une grande partie de l'enveloppe sera consacrée aux civils déplacés à l'intérieur de la Syrie. En Israël, des dizaines de soldats de réserve d'une prestigieuse unité de renseignement ont envoyé une lettre au gouvernement pour annoncer leur refus d'endosser l'uniforme parce qu'ils sont tenus de mettre sous surveillance des millions de Palestiniens. Vous écoutez La Voix de l'Amérique, place maintenant à Sahel Plus, c'est avec Claire Morin-Gibourg.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur la Voix de l'Amérique. Human Rights Watch accuse le gouvernement israélien de forcer des milliers de demandeurs d'asile africains à retourner chez eux où ils risquent d'être emprisonnés, voire torturés. Près de 7000 Érythréens et Soudanais sont néanmoins partis, affirme un rapport de l'Organisation de défense des droits de l'homme. Plus de détails avec Michel Joseph.
Human Rights Watch estime à plus de 50 000 le nombre d'Africains, des Soudanais et Érythréens pour la plupart, arrivés ces 8 dernières années en Israël. Seul un petit nombre a obtenu l'asile. Pour Bill Van Esveld, représentant de l'ONG, le gouvernement israélien veut qu'ils partent.
Il y a une série de lois qui ne laissent essentiellement que ce choix. Rester et se retrouver éventuellement en détention pour une durée indéterminée ou être renvoyé chez soi.
Ce rapatriement, estime Van Esveld, équivaut à un refoulement qui les exposera à des abus. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dit les considérer non pas comme des réfugiés, mais comme des infiltrés. Et il s'est dit bien déterminé à expulser tous ceux qui ont pu entrer dans son pays avant l'érection d'une clôture à la frontière avec l'Égypte.
Nouveau dossier consacré à l'épidémie d'Ebola. Des nouvelles positives en provenance du Sénégal néanmoins. Le pays ne compte plus aucun cas de maladie à virus Ebola. C'est l'annonce faite hier par la ministre sénégalaise de la Santé, Awa Marie Kolsek.
L'unique personne atteinte de l'Ebola qu'ont enregistré les autorités sanitaires sénégalaises est un étudiant guinéen rentré de son pays au mois d'août. Soigné dans un hôpital de Dakar, il ne présente plus de traces d'Ebola, selon la ministre sénégalaise de la Santé.
Les résultats des dernières analyses effectuées sur le cas importé de fièvre à virus Ebola sont négatifs. Ces résultats attestent la guérison du patient qui n'est plus contagieux. En conséquence, à la date d'aujourd'hui, le Sénégal ne compte aucun cas de maladie à virus Ebola.
En outre, a précisé Mme Awa Marie Kolsek, les 67 personnes ayant eu un contact avec le patient au moment où il venait d'arriver de Guinée ne montrent pas de signes de la maladie et sont toujours sous surveillance. Le Sénégal continue de demeurer vigilant et renforcera les mesures de surveillance et les frontières aériennes, terrestres et maritimes avec les pays où sévit l'Ebola resteront fermées, a ajouté la ministre sénégalaise de la Santé.
Autre pays à n'avoir aucun cas d'Ebola recensé, le Burkina Faso. Malgré cela, par mesure de sécurité, plusieurs événements ont dû être reportés à Ouagadougou, comme le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie, qui était prévu du 2 au 5 octobre, et le Salon international de l'artisanat, prévu lui début novembre. De Ouagadougou, la correspondance de Zoumana Wanogo.
Pas de cas avéré de maladie à virus Ebola au Burkina, qu'il en soit toujours ainsi. Mais force est de constater que ce fléau d'Ebola joue ici au Faso un rôle de perturbateur des manifestations à caractère international. À cause d'Ebola, le Burkina en est à son troisième report de grand rendez-vous, le sommet de l'Union africaine sur l'emploi et la lutte contre la pauvreté, puis le CITO, Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, et puis encore le CIAO, Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Et tout cela n'est pas sans conséquences. Écoutons ce qu'en dit Baba Hama, le ministre burkinabé du tourisme.
Quelques hôteliers de la place, en tout cas, ont constaté qu'il y a des annulations, ce qui laisse supposer que d'ici la fin de l'année, nous allons certainement observer un creux de la vague en ce qui concerne le tourisme récepteur, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'autres pays. Mais encore une fois, c'est un phénomène tout à fait humain, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de danger potentiel dans un lieu donné, l'homme a tendance en tout cas à prendre ses précautions. Mais en ce qui concerne le tourisme interne, il se porte bien parce que comme vous le savez, les Burkinabés n'ont pratiquement pas changé leurs habitudes en termes de déplacement.
L'impact négatif de ces reports fait mal aussi aux artistes musiciens, assure Bamos Théo, le président de l'Amicale des artistes du Burkina. On l'écoute.
C'est vrai que les CIAO, tous ces sommets qui devraient avoir lieu, c'était des occasions pour nous de gagner beaucoup de gombos. C'est nous, quand on dit les gombos, c'est l'argent non caché, si nos premières autorités ont estimé pour menace de la santé humaine, pour la santé des Burkinabés, ils ont jugé de reporter. Nous ne faisons que louer la décision. C'est parce qu'on est vivant qu'on peut chanter. Ça nous fait mal d'un côté. Mais si tu élèves ton esprit, tu comprends. Sinon, ça fait mal, mais il faut positiver.
Les cinéastes, quant à eux, croisent les doigts pour que le virus Ebola soit vaincu d'ici la tenue du FESPACO. Zoumana Bonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
Ouagadougou, où vous nous écoutez sur le 102.4 FM. Direction le Mali. Maintenant, le Mali qui se mobilise pour réduire les accidents de la circulation. Les autorités ont lancé une campagne de sensibilisation. Pendant un mois, les agents de la sécurité routière feront le tour du pays afin de former les usagers de la route et de les sensibiliser aux dangers de la conduite, qu'elles soient à deux ou à quatre roues. Respect du code de la route et port du casque obligatoire par les motocyclistes seront notamment au cœur de cette campagne. De Bamako, Kassim Traoré nous en dit plus.
En 2013, 6059 accidents ont été enregistrés au Mali, dont 4968 ayant impliqué les utilisateurs d'engins motorisés à deux roues. Ces accidents ont fait 8800 victimes avec 529 tués. Le directeur régional de la protection civile de Bamako nous dresse le bilan du district, colonel Fagimba Keita.
Les statistiques les plus récurrentes sont enregistrées généralement au niveau des accidents de la route. Ça fait 8701 cas d'accident pour 12415 victimes, 165 cas de décès et 12250 blessés.
Certains de ces accidentés sont acheminés dans les hôpitaux et autres centres de santé du pays. Ousmane Kone, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.
Il s'agit effectivement d'une question de santé publique. Les services d'urgence interviennent pour réparer tant que faire se peut les effets des accidents, mais aussi nous sommes interpellés pour la prévention. Quelqu'un dit santé publique dit en priorité gestion des causes du mal.
Cette année, les autorités maliennes ne veulent pas rester les bras croisés. Elles organisent un mois de sensibilisation sur le respect du code de la route, le port des casques. Mamadou Hachim Koumaré, ministre de l'équipement, des transports et du désenclavement.
La tenue des foulards de la sécurité routière s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action prioritaire élaboré par mon département en conformité et en symbiose avec les orientations données par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Ces foulards constituent de réelles opportunités pour nous, pour faire qu'en sorte le combat contre l'insécurité routière puisse être gagné. Combattre l'insécurité routière, oui, nous le pourrons, mais cela passe par un changement de comportement et une amélioration des infrastructures routières.
Il revient à l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER d'organiser ces forats à travers le pays afin que les usagers de la route puissent être bien informés et sensibilisés. Général Souleymane Yacouba Sidibé, président du conseil d'administration de l'ANASER.
L'Agence nationale de la sécurité routière ANASER, tout comme d'autres organismes publics ainsi que la société civile, sont fortement interpellés. Le conseil d'administration de l'ANASER a donc approuvé le programme d'action de la structure en lui instruisant d'organiser des campagnes de proximité sur la sécurité routière.
Pendant un mois, les techniciens et autres spécialistes des codes de la route vont à la rencontre des usagers de la route. Une occasion de les sensibiliser et de les informer. Le souhait de plusieurs usagers aujourd'hui est de bannir l'indiscipline dans la circulation qui est souvent source des accidents au Mali. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
Dans un nouveau rapport, l'ONG Oxfam s'inquiète des méga partenariats publics-privés dans l'agriculture africaine. Selon l'ONG, ils n'ont pas fait leurs preuves. De plus, ces partenariats présentent des risques et n'ont pas encore démontré leur capacité à réduire la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Oxfam souligne que les politiques gouvernementales et l'aide internationale de près de 6 milliards de dollars aux grands partenariats publics-privés, les PPP, risquent de fragiliser les droits fonciers des Africains, d'aggraver les inégalités et de nuire à l'environnement. On écoute Mohamed Lamine Diagne, il est directeur de programme Justice économique en Afrique chez Oxfam.
Nous avons remarqué que ces méga partenariats publics-privés ne bénéficient pas toujours aux petits producteurs. Nous avons aussi remarqué que ces partenariats sont le plus souvent dirigés par des pays, souvent du G8, qui favorisent le plus souvent des entreprises qui sont domiciliées dans leur propre pays. Et je pense que dans le rapport, il a été fait mention d'une multinationale comme Yara, qui a eu le privilège de bénéficier de l'aide de la Norvège, où cette multinationale est domiciliée. Et c'est le même cas aussi pour BAT, qui a reçu aussi des aides du gouvernement allemand. C'est deux cas que je vous donne comme ça. Mais je voudrais plutôt mettre la priorité sur une chose. Tout simplement pour dire qu'en Afrique, 530 millions d'Africains dépendent directement ou indirectement de l'agriculture. Et 80% de la population qui cultive est en fait constituée de petits producteurs ou d'exploitations familiales, si on veut. Là, il s'agit de partenariats publics et privés, c'est-à-dire que les gouvernements et les États africains sont en train d'utiliser les ressources publiques pour favoriser l'investissement à grande échelle dans le secteur agricole.
Les investisseurs et les gouvernements font valoir que ce n'est qu'une tentative pour essayer justement d'améliorer les rendements de l'agriculture en Afrique subsaharienne ou ailleurs.
Alors là n'est pas le problème. Le problème qui se pose, c'est qu'il faudrait que ces partenariats, que l'on puisse non seulement partager les bénéfices, mais aussi partager les risques. Et parmi les risques, comme vous le savez, il y a le risque foncier, c'est-à-dire les terres qui sont attribuées à ces multinationales agroalimentaires et qui souvent posent des problèmes. Dans les études que Oxfam a menées, nous avons vu aussi que dans la plupart des cas, ces terres sont souvent cédées à des prix vils. Et il y a même un cas, c'était en Tanzanie, où les terres étaient cédées à 1 dollar à l'hectare. Un autre cas, au Brésil, où l'hectare est cédé à 15 000 dollars.
Mohamed Lamine Diagne, directeur de programme Justice économique en Afrique à Oxfam, au micro de Camille Grosdidier. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Nick Ivanov qui était à la technique. Au micro, Claire Morazibour. Nous nous quittons en musique avec Achille Baldal et son Mandela. Rendez-vous lundi, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée, bonne nuit et très bon week-end à tous. Turabal ala soale na kulina kia Malanas mapidoro shumuani na zuru Malanas mapidoro shumuani na zuru Bigundu ani na chinata fi dunia ki Bigundu ani na sheta. Apartheid,
que le goût de l'homme à partir d'un peu à la 20e siècle. Je nous louons le nom à partir d'un peu cabine à la 20e siècle. Je nous louons le nom à partir d'un peu cabine à la 20e siècle. Nelson Mandela, oh, à partir d'un peu cabine à la 20e siècle. Oui, Mandela, à partir d'un peu cabine à la 20e siècle.